Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du vendredi 24 mai 2024. Voici d'abord les principaux titres. Joe Biden déroule le tapis rouge pour le président kényan William Ruto à la Maison Blanche. Présumée tentative de coup d'état avorté à Kinshasa, nous parlons des implications politiques avec Christian Moleka, coordinateur de la plateforme dynamique des politologues de la RDC basée à Kinshasa.
On a vu dès le coup d'état beaucoup d'opposants réagir rapidement sur Twitter comme pour se désolidariser de la démarche parce que ça peut être rapidement un levier politique ou un levier sécuritaire.
Des députés et représentants de partis politiques au Cameroun font l'objet d'accusations de vouloir saper la stabilité de l'État. Toujours au Cameroun, synergie des radios communautaires pour combattre la corruption dans les communautés rurales.
Quand vient, te trouve-toi une femme, tu as chien, on dit, voilà une somme de 50 000, 30 000. On dit, t'as passé, c'est là, on va le prendre. Et tu refuses, tu ne peux pas.
La société civile en Guinée-Bissau demande la libération de 9 individus arrêtés samedi dernier. La Cour internationale de justice se prononce sur une demande d'ordonner un cessez-le-feu à Gaza. La Chine encercle Taïwan dans leur deux manœuvres militaires en réponse au nouveau président de l'île. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo pour l'instant le journal. Le président américain Joe Biden a honoré son homologue kényan William Ruto lors d'un dîner de gala à la Maison Blanche, illustrant le renforcement des liens entre les deux pays. L'événement a été marqué par une apparition surprise au début du dîner de l'ancien président Barack Obama, d'origine kényane, par son père, Didi Diko.
Le président Biden a souligné les valeurs communes de liberté et de démocratie partagées avec son homologue kényan. William Ruto a exprimé sa gratitude pour l'amitié et le partenariat solide entre le Kenya et les États-Unis. La visite a permis de lancer de nouveaux partenariats dans la santé, l'éducation et l'énergie, ainsi que des avancées vers un accord commercial stratégique avec un objectif de signature d'ici la fin de l'année. Les États-Unis et le Kenya ont également appelé à des pratiques de prêt plus transparentes et durables pour alléger la dette souveraine des pays africains. Ruto a exhorté Washington à prolonger l'African Growth and Opportunity Act et à renforcer le soutien américain en Afrique. Biden a annoncé la promotion du Kenya au rang d'allié majeur non membre de l'OTAN, un statut conférant des avantages militaires et diplomatiques. Les deux dirigeants ont discuté de la mission kényane en Haïti, visant à restaurer la stabilité dans le pays sans préciser de date de déploiement.
Des dirigeants de partis politiques et députés au Cameroun font face à des accusations de tentatives de déstabilisation de l'État. Ces allégations ont été proférées par le gouvernement sans pour autant nommer les individus impliqués dans un contexte où se profile l'élection présidentielle de 2025. Alexandrine Rolignan.
Dans son communiqué diffusé par la Radio Nationale, le ministre en charge de l'administration territoriale, Paul Atanganji, épingle sans les nommer certains députés et dirigeants de parti. Le ministre dénonce l'occupation de l'espace médiatique et les réseaux sociaux pour diffuser des messages qu'il qualifie de tendancieux et anti-républicains dans le but de troubler l'ordre public et discréditer l'État. Atanganji met en garde les contrevenants et promet qu'ils seront traqués où qu'ils se trouvent et traduit devant les instances judiciaires selon la gravité de leur forfait. La sortie du ministre camerounais survient à 1 an et 5 mois de la prochaine élection présidentielle. Dans cette perspective, des opposants se sont, selon lui, rendus coupables de défier impunément l'autorité de l'État, incités à la rébellion et menacés de mettre le pays à feu et à sang. Nombre d'acteurs de l'opposition ont déjà annoncé leur volonté de prendre part à ce scrutin et de mettre fin au règne de Paul Biya, 91 ans, à la tête de l'État depuis 1982.
Le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte militaire depuis 3 ans au Tchad, avant d'être élu président, a prêté serment jeudi pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Après avoir vanté dans un discours le retour à l'ordre constitutionnel, il a promis d'être le président des Tchadiens de tout horizon et de toutes sensibilités. Les résultats officiels du scrutin ont été contestés par l'opposition et jugés peu crédibles par des ONG internationales. L'ex-opposant Succès Mastra, que Déby avait nommé Premier ministre il y a 4 mois, a présenté sa démission mercredi et était absent à l'investiture. Dans la soirée, la présidence a annoncé la nomination au poste de Premier ministre de Alamaï Alina, un ancien ambassadeur du Tchad en Chine, proche du clan Déby après 13 ans, à la tête du protocole de la présidence de la République. L'interdiction par les militaires au pouvoir en Guinée de 4 radios et une télévision privée très suivie a provoqué une levée de boucliers dans un contexte de restrictions sévères de la liberté d'informer. Les autorités ont retiré mercredi les agréments d'exploitation des radios FIM FM, Radio Espace FM, Suite FM, Joma FM et de la télévision Joma TV, invoquant un non-respect du contenu des cahiers des charges. Cette décision liberticide confirme ce que nous avons toujours soupçonné, la volonté de la junte d'éteindre systématiquement les médias libres et indépendants, a déclaré Khalil Oulare, directeur général du groupe Joma Media. Il a dénoncé un acte illégal. Des groupes de la société civile en Guinée-Bissau réclament la libération de 9 individus appréhendés samedi dernier à Bissau lors d'une manifestation en faveur de la démocratie et contre l'augmentation du coût de la vie. Yakuba Ouedraogo.
Nous exigeons la libération sans condition de tous les détenus, a affirmé Abdoulaye Diaoura, président du réseau national des associations de jeunes. Il est reproché aux 9 personnes d'avoir participé à une marche non autorisée. Une 50aine de personnes avaient été arrêtées par la police le 18 mai lors de cette marche pour la démocratie et contre la vie chère. La majorité a été libérée le lendemain après vérification de leur identité, selon une source policière. La marche avait été initiée par le Front Populaire, une nouvelle coalition formée de partis politiques et d'organisations de la société civile, créée par l'opposant et ex-premier ministre Domingos Simoes Pereira. Le Front affirme se battre contre la vie chère et pour la réinstallation de l'Assemblée nationale, dissoute le 4 décembre 2023 par le président Oumarou Sissoko Embalo, en raison d'affrontements qui ont opposé la garde nationale et l'armée. Embalo avait qualifié cet événement de tentative de coup d'État, ce que dément Pereira.
30 ans après l'élection de Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud, le pays organise ses 6e législative mercredi pour élire les 400 députés de son Assemblée nationale qui siège au Cap à plus de 1400 km de l'exécutif à Pretoria. Mercredi, les 27,6 millions d'inscrits sont ainsi appelés à renouveler le Parlement qui désignera ensuite le président qui dirigera le gouvernement. Les députés, notamment des candidats à la présidence, votent à bulletin secret. Celui qui obtient 201 voix ou plus de votes devient président. L'ANC a fourni les 5 présidents élus depuis l'avènement de la démocratie, ayant toujours obtenu la majorité absolue.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, se prononce ce vendredi sur une requête de l'Afrique du Sud d'ordonner l'arrêt de l'offensive militaire israélienne à Gaza, Pretoria, accusant Israël de génocide. La Cour rendra sa décision à partir de 13h en temps universel. Ces ordonnances, qui tranchent les différends entre États, sont juridiquement contraignantes, mais elle n'a aucun moyen de les faire respecter. La Chine a effectué hier une démonstration de force en encerclant Taïwan avec des navires et des avions militaires lors de manœuvres. Pékin justifie ces exercices en les présentant comme une réponse aux actions du nouveau président taïwanais et des forces indépendantistes. En réaction, Taïwan a affirmé qu'il se défendrait face à toute menace. Nanit Talani.
Le ministère taïwanais de la Défense annonce avoir détecté au moins 49 avions chinois, dont 35 ont franchi la ligne médiane, coupant en deux le détroit de l'île. Taïwan défendra les valeurs de liberté et de démocratie. Je me tiendrai sur la ligne de front avec nos frères et sœurs de l'armée pour défendre ensemble la sécurité nationale, a promis le président Lai Ching-te. Taïwan dit avoir déployé ses forces maritimes, aériennes et terrestres pour défendre sa souveraineté, tout en estimant que les exercices chinois sont destructeurs pour la paix et la stabilité régionale. Pour Pékin, Ces manœuvres prévues jusqu'à ce vendredi et impliquant l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et l'unité des fusées constituent une punition sévère pour les actes séparatistes des forces indépendantistes de Taïwan et un avertissement sévère contre l'ingérence et la provocation des forces extérieures. À Washington, un haut responsable a affirmé sous anonymat que les États-Unis surveillent de très près la situation et appellent la Chine à la retenue. L'ONU exhorte les différentes parties à s'abstenir de toute action pouvant aggraver les tensions.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par John Lyndon.
La Sierra Leone a mobilisé un financement de 412 millions de dollars de la Société des financements du développement international. Selon le site Financial Afrique, cet argent devrait servir au développement du projet de construction d'une centrale électrique à Freetown, la capitale. Le financement est composé d'un prêt de 292 millions de dollars de la DFC ainsi que 120 millions de dollars d'assurance contre les risques. D'après les données fournies par l'Institut national de la statistique dans sa note sur le commerce extérieur de 2023, le Cameroun a exporté plus de 127 000 tonnes de coton brut vers l'étranger pour une valeur de plus de 147 milliards de francs CFA. Selon le site ecomatin.net, le volume exporté est cependant en baisse de 21 000 tonnes, soit moins 14,6% par rapport à 2022. C'est la deuxième année successive que les exportations d'or blanc connaissent un repli. Le groupe pétro-gazier étatique algérien Sonatrag a annoncé jeudi avoir signé un protocole d'accord avec le géant américain ExxonMobil en vue du développement des ressources en hydrocarbures dans deux gisements gaziers du sud de l'Algérie.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire dévoile sa liste pour les fenêtres FIFA à venir.
Oui, MS Faye a convoqué 25 éléphants, dont 5 nouveaux pour les matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mohamed Diomandé des Glasgow Rangers, Emmanuel Latelat de Middlesbrough, Ivan Guessan, Mohamed Bamba de Lorient, Christopher Opéry intègrent le groupe des champions d'Afrique en titre. On note aussi la convocation de Guéla Doué qui avait été convoqué pour la première fois en mars, Ismaël Diallo, Karim Konaté, Serge Aurier, Ibrahim Sangaré, Jean-Philippe Crasso et Christian Kwame n'ont pas été sélectionnés. Pour le reste, les cadors Simon Adengra, Sébastien Haller, Yaya Fofana, Seko Fofana, Ivan Dika, Franck Kessier sont présents. La Côte d'Ivoire affronte le Gabon le 7 juin et le Kenya le 11 juin dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
Ce vendredi, Yacouba, débutent les playoffs de la Basketball Africa League au Rwanda.
Oui, les 8 meilleures équipes de cette saison 4 vont s'affronter du 24 mai au 1er juin à la BK Arena de Kigali. Ce sont Al Ahly de la Libye, Al Ahly SC d'Égypte, AS Douane du Sénégal, Cape Town Tigers d'Afrique du Sud, FUS Rabat, Petro de Luanda, Rivers Hoopers du Nigeria et l'US Monastir de la Tunisie. Deux matchs ce vendredi. Les Libyens d'Al Ahly vont faire face aux Sud-Africains de Cape Town Tigers avant le choc nord-africain entre les champions en titre égyptiens d'Al Ahly et les Marocains de FUS de Rabat. Cette phase connaîtra un tour de classement où l'équipe la plus performante va jouer contre l'équipe suivante. La phase suivante sera les quarts de finale, le début donc des matchs à élimination directe.
Ici en NBA, l'équipe de l'année est connue.
Aucun Africain dans les 15 joueurs honorés dans les trois listes. Luka Doncic a été nommé pour la 5e fois d'affilée dans l'équipe de l'année. Le Slovène vainqueur avec Dallas du match numéro 1 de la finale de la Conférence Ouest à Minnesota mercredi connaît sa 5e sélection consécutive dans l'équipe numéro 1 qu'il partage avec le MVP Nikola Jokic de Denver, le meneur d'Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander, le grec Gianni Antetokounmpo de Milwaukee et Jason Tatum engagé en finale à l'Est avec les Boston Celtics. LeBron James a été honoré dans la 3e équipe, sa 20e distinction du genre, un record.
La page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Cette semaine, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la RDC a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête avec pour objectif de faire la lumière sur les circonstances entourant le présumé coup d'État avorté à Kinshasa. Quel impact pourrait avoir la présumée tentative de coup d'État sur la politique intérieure et extérieure de la RDC? Eddy Issango s'est entretenu par téléphone avec Christian Moleka, coordinateur de la plateforme dynamique des politologues de la RDC basée à Kinshasa.
D'un point de vue de l'Union sacrée, c'est-à-dire la plateforme du président de la République, ce coup d'État peut être un point de départ de suspicion entre alliés. On a vu, après le coup d'État, que les partisans de l'actuel speaker de l'Assemblée, Vital Kamerhe, ont très vite crié à une tentative d'assassinat, tandis que le narratif officiel parlait de coup d'État. Et donc, on a dès le départ senti ce double narratif entre ceux qui pensaient que le coup visait à éliminer physiquement le prétendant au perchoir de l'Assemblée, et ceux qui, dès le départ, liaient rapidement le coup d'État au chef de l'État et donc au renversement de l'institution de la République. Et donc, ce coup d'État et ce point de friction peut être une ligne de dissension entre alliés si très vite on ne participe pas à résoudre cette incompréhension ou cette incongruité-là. D'un point de vue de l'opposition, par contre, on a vu dès le coup d'État beaucoup d'opposants réagir rapidement sur Twitter comme pour se désolidariser de la démarche, parce que ça peut être très rapidement un levier politique ou un levier sécuritaire pour mettre en œuvre des mécanismes ou des mesures, des rétorsions vers des acteurs politiques. On sent des discours monter notamment contre l'Église catholique et contre certains opposants. Et donc il est possible qu'avec avec ces coups d'État, des passerelles ou des liens d'interprétation lient ces événements au jeu politique intérieur. Depuis la montée de Corneille Nanga et de l'AFC, il y a plus en plus d'interprétations, de collisions entre les questions sécuritaires, à l'Est notamment, et les jeux politiques en interne. Et donc, ce coup d'État peut servir de nouveau levier pour justifier cette plus grande collision entre la sécurité et la politique.
Cette crainte était exprimée déjà quand le gouvernement a levé les moratoires sur la peine de mort, il y a quelques semaines.
La levée de moratoire a été considérée pour certains comme un pas de plus vers une forme d'autoritarisme régressif, et que c'était un levier utilisé par le pouvoir politique pour restreindre à la fois l'espace public, le jeu de l'opposition politique, et également de fermer le jeu intérieur, probablement en perspective des grands enjeux qui peuvent venir demain. Le coup d'État vient conforter par contre la position de défenseur des moratoires, et pourront se justifier désormais par le fait qu'il y a des possibilités d'atteinte à la sûreté de l'État, des possibilités de complicité en interne, et donc le moratoire devient levier pour eux plus justifié qu'hier. Par contre, pour les opposants, il y aura des raisons de craindre. Justement, les événements du coup d'État participent à légitimer encore plus grandement cette levée de moratoire.
Et sur le plan international,
le Congo, depuis quelques temps, traverse des moments de tension avec certains pays, est en froid avec quelques pays voisins, notamment le Rwanda, et on parle de plus en plus de l'Ouganda, qui serait relié également à la problématique des M23. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, beaucoup citent Brazzaville ou le Kenya comme de point de passage de Christian Malanga pourrait renforcer cette position d'isolation, d'isolement diplomatique de Kinshasa vis-à-vis des pays de la sous-région.
Christian Moleka, coordinateur de la plateforme dynamique des politiques de la RDC.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM.
En partenariat avec 22 radios communautaires réparties sur le territoire national, la Commission nationale anti-corruption au Cameroun lance une campagne vigoureuse contre les pratiques de corruption et les détournements de fonds publics dans les zones rurales. Ces stations de radio jouent un rôle essentiel en produisant et diffusant des messages de sensibilisation visant à combattre activement la corruption. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
Dans la plupart des zones rurales du Cameroun, prévaut ce que les autorités de la Commission nationale anticorruption appellent la petite corruption. Elle ruine l'effort des communautés rurales, les prive des infrastructures de base, telles que les hôpitaux, les salles de classe, les routes, les forages ou encore l'électrification rurale. La radio communale de Batouri, dans la région de l'Est, à plus de 404 km de Yaoundé, fait désormais partie des radios communautaires qui éduquent les populations rurales à la dénonciation des actes de corruption.
un militaire ou un policier qui vous estompe en route et qui vous demande de l'argent et vous donner. Pourtant, c'est des choses qui ne doivent pas être faites.
Marwan Oumarou, chef de chaîne de la radio communale de Batouri.
Il y a beaucoup d'avancées, on va le dire ainsi, parce que certains viennent nous rencontrer et nous disent qu'ils ont été victimes de ci ou ça. Et nous les référons comme on nous a demandé de le faire, parce que nous ne sommes que des intermédiaires. On ne saurait faire justice à ces derniers. Et nous référons dans tous ces cas au niveau de la CONAC. Et la CONAC ouvre des investigations et justement établit les responsabilités. Les différentes personnes impliquées seront forcément mises en
garde. Batouri et les villages environnants comme Demdeu dans la région de l'Est sont situés dans une zone minière. Sous anonymat, de natifs témoignent que les entreprises chinoises usent de corruption pour dicter leurs lois.
Donc quand on vient, te trouve toi une femme, tu es au chien, on dit, voilà une somme de 50 000, 30 000. On dit, t'as passé, c'est là, on va le prendre. Et tu refuses, tu ne peux pas refuser, parce que quand on dit là, ça vient de Yaoundé.
Le papa qui vous a amené voir son lac, c'est une longue histoire. Et que ça ne va même pas aboutir, parce qu'il y a trop de corruption.
La Commission nationale anticorruption CONAC a sélectionné 22 des 150 radios communautaires du Cameroun et former les producteurs d'émissions en langue locale sur la lutte contre la corruption. Moïse Ngayab, chef de chaîne de la radio Satou, en Ngaoundéré, dans la partie septentrionale du Cameroun.
Donc cette collaboration est la bienvenue, étant donné qu'elle va nous permettre de mieux sensibiliser sur le terrain, n'est-ce pas, les populations en langue locale.
La corruption porte surtout un sérieux coup au développement dans les zones reculées du Cameroun. Dieudonné Massigams, président de la Commission nationale anticorruption.
C'est pour cela que nous avons signé une convention aujourd'hui avec 22 radios locales pour l'utilisation des langues nationales. Ceci permettant en sorte que la lutte contre la corruption soit intégrée dans les cultures locales.
Le Cameroun est dans un processus de décentralisation, mais de nombreux projets dans les zones rurales ne sont pas exécutés à cause de la corruption et parfois de l'ignorance des populations sur les voies de dénonciation. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En dépit des avancées technologiques, environ 15% de la population en Afrique se heurte à des défis liés au handicap, les infrastructures limitées et les coûts élevés des technologies d'assistance créent des barrières à l'accès au numérique, entraînant une exclusion accrue. Une conférence tenue à Nairobi au Kenya ambitionne de remédier à cette situation. Les objectifs visés sont rapportés par Mohamed Youssouf. Le récit avec Blanche Sanou.
Edwin Omulama fait partie des millions de personnes en situation de handicap en Afrique. Il est ici aujourd'hui pour découvrir comment la technologie peut l'aider à se déplacer sans l'aide de quelqu'un ou de sa canne. Un dispositif est attaché au pied d'Edwin Omulama pour empêcher les collisions, le protégeant ainsi des blessures.
Beaucoup de gens sont capables de nous identifier grâce à l'utilisation de cannes, mais avec les caméras, les gens ne pourront pas nous différencier. Ils penseront que nous sommes normaux. Et je crois que cela nous aidera à être plus indépendants lorsqu'il s'agit de marcher et d'identifier des objets.
Lors de la conférence Inclusive Africa, au moins 20 innovateurs ont présenté des technologies conçues pour améliorer l'indépendance des personnes handicapées. Selon les Nations Unies, plus de 80 millions de personnes en Afrique vivent avec un handicap. D'ici 2050, 3,5 milliards de personnes dans le monde auront besoin de technologies d'assistance. Les appareils présentés ici sont conçus pour répondre au handicap, depuis l'aide à la communication pour les personnes souffrant de déficiences verbales et visuelles jusqu'à la facilitation des mouvements. Faustina Urassa de Tanzanie dit que se faire aider à monter dans un véhicule peut être très bouleversant.
Il y a des moments où quelqu'un vous touche d'une manière qui vous met mal à l'aise. Mais avec ce mode de transport, cela contribue à préserver notre dignité. Désormais, je peux monter dans le véhicule avec respect et m'asseoir confortablement. Cela m'apporte une immense joie.
L'accès aux technologies d'assistance est faible en Afrique et est imputé à la pauvreté, à l'environnement, au manque de connaissances et au manque de services de soutien et de prestataires de services. Les organisateurs et les participants à la conférence organisée à Nairobi ont discuté des défis auxquels ils sont confrontés en tant que personnes handicapées, comme le coût et les opportunités en matière de technologie d'assistance.
Irène Barry-Kirika, fondatrice et PDG d'Inable.
Nous voulons également débloquer l'écosystème informatique africain et aider les pays et les innovateurs africains à développer des politiques et des structures de financement qui peuvent aider l'innovation à prospérer en Afrique. Nous voulons également donner aux jeunes handicapés les bonnes informations, outils et opportunités pour devenir champions de l'accessibilité numérique à travers le continent.
Alors que la conférence se termine, les personnes en situation de handicap et leurs défenseurs espèrent que leurs voix seront entendues et soutenues par des outils leur permettant d'améliorer leur vie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Crise migratoire avant de nous quitter. Les derniers chiffres montrent une baisse des traversées de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Habituellement en hausse au printemps, les passages illégaux ont diminué de plus de 6% en avril par rapport au mois précédent, selon les autorités. Pour plus de détails, voici le reportage d'Aline Barros, le récit avec Yacouba Ouedraogo.
Le long de la route, des migrants marchent près de la clôture en acier qui marque la frontière entre les États-Unis et le Mexique, à Sasabi, en Arizona. Ils ont déjà marché environ 14 kilomètres à l'intérieur des États-Unis pour arriver à ce camp de Sasabi. Ici, ils attendent de se rendre aux agents de la patrouille frontalière américaine. La plupart d'entre eux disent qu'ils vont demander l'asile au gouvernement américain. Originaire du Togo, le migrant Ashraf Duronil a dit à la VOA que la situation dans son pays n'est pas sûre.
Et bien sûr que le pays, à l'Afrique, ça ne va pas. Il va falloir qu'on se cherche. Voilà le pourquoi on a décidé de se rendre aux États-Unis.
Les migrants décrivent leur voyage vers les États-Unis comme dangereux.
J'ai eu peur de ma sécurité puisque dans la forêt au Panama, ça n'a pas été facile. C'est la marche. C'est une grande forêt, en fait.
Les autorités américaines ont publié des données montrant que les passages illégaux vers les États-Unis en provenance du Mexique ont diminué de plus de 6% en avril, contrairement à l'augmentation habituelle observée au printemps. Le service des douanes et de la protection des frontières américaines indique avoir eu affaire à près de 129 000 migrants dans les points d'entrée le long de la frontière sud-ouest. Ce chiffre est inférieur à celui du mois de mars, environ 137 000, et représente près de la moitié des 250 000 migrants recensés en décembre. Le gouvernement américain attribue la baisse du nombre de traversées à l'intensification des contrôles au Mexique. Les migrants viennent toujours de différentes parties du monde. John Modlin est le chef de patrouille de Tucson en Arizona.
Nous assistons à une forte migration en provenance d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit généralement de langues et de cultures qui ne nous sont pas familières, des langues et des cultures que les autres migrants ne connaissent pas non plus. Il s'agit donc d'un défi permanent.
Mais même si les chiffres sont moins élevés, le service des douanes et de la protection des frontières affirme que les passeurs poussent les migrants vers les zones les plus isolées, comme ici dans le secteur de Tucson en Arizona.
Nous devons nous rendre dans ces zones très reculées qui ne sont pas nécessairement desservies par des routes goudronnées. Nous faisons donc de notre mieux pour les atteindre, déterminer s'il y a quelqu'un de plus vulnérable que les autres et sortir ces populations de là.
Depuis mai 2023, les services d'immigration américains ont expulsé plus de 720 000 personnes. La plupart d'entre elles avaient franchi illégalement la frontière sud-ouest. Dans le cas de Sasabi, des travailleurs humanitaires fournissent de la nourriture et de l'eau aux migrants. Mark Sanders fait partie de l'Association des bons samaritains de Green Valley, Sawarita.
Avant, ces gens-là venaient du Mexique et de l'Amérique centrale, mais il y a aussi des gens de divers pays d'Afrique. Nous avons rencontré des gens du Bangladesh, de l'Inde et je ne sais où. C'est un peu comme les Nations Unies.
La diminution du nombre de traversées n'a pas ralenti les critiques des républicains sur la manière dont l'administration Biden gère les questions d'immigration. Jody Harrington est un député républicain.
Si les gens pensent qu'ils peuvent venir illégalement, ils viendront.
Les autorités américaines assurent qu'elles resteront vigilantes pour comprendre l'évolution des schémas migratoires.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manila Kiza à son micro. Firmin Kouyaweda a assuré la production et la réalisation. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.